L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
L'Afrique dans tous ses états est une nouvelle émission de FM+. Pour la première partie de cette émission, nous avons reçu Marie-Claude Kezaxia et Christian Allier. Christian Allier a évoqué ses premières sensations sur le continent africain en arrivant à Dakar et puis son appel de la forêt.
Au Bénin, j'ai connu les indépendances, donc l'époque dont je parle, là, j'avais 8-10 ans. 8-10 ans, le dimanche, on allait se balader avec mes parents, leurs amis, bref. Un jour, on s'est arrêté au bord d'une lagune, je pense, dans mon souvenir, c'est un très grand plan d'eau, entouré d'arbres, de forêts. Pas la forêt tropicale, mais la forêt du Bénin, de belles, de beaux arbres. Et avec ma frangine, on est allé, comme tous les gosses, se promener. On jouait dans la forêt, mais pas loin des parents quand même. Puis on est tombé à un endroit sur ce dont je sais maintenant que c'est une forêt sacrée. Là, à 100-200 mètres de la route, il y avait un endroit entre 6 arbres, parfaitement alignés. Dans cette zone, entre les 6 arbres, tout était parfaitement propre. Et au milieu, il y avait une construction en argile, ouais, mais comme des clés. Ça faisait quoi, 1,50 m de long sur 1 m de large, sans toiture, et dedans, plein de figurines. Ouais, des figurines de couleurs, de différentes couleurs, mais toutes avec une patine de sang. Entre les 6 arbres, les arbustes qui étaient toujours là, il y avait des coups de poulet, d'antilopes, des machins très bizarres. Et à un moment, ma sœur m'attrape et me dit « Christian, il y a un homme qui nous regarde ». Moi, j'étais fixé sur ces figurines.
Tétanisé par
oui,
ces figurines.
Non, j'ai dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et là, je regarde, où ma sœur me montre et je vois un homme, un torse nu, en pagne, avec des peintures blanches, sur des yeux comme ça, un peu rouges d'ailleurs, mais bon, c'était son affaire, qui nous regardait. Sans rien dire, ce type, je le voyais immense à l'âge où j'étais. Et il a regardé ma sœur un moment, ensuite il m'a hypnotisé cet homme. Il a dit quelques mots dans sa langue, j'ai rien compris évidemment. Puis il a disparu comme il était apparu. Il a dû se remettre derrière l'arbre et à partir de là, je rêvais de forêts que j'avais jamais vues, des fleuves, des endroits où j'étais jamais allé. Et ça m'a suivi tout le temps, cette histoire-là.
Alors, Marie-Claude Kezaxia, oui. S'il y a dans votre émission, dans notre émission, l'Afrique dans tous ses états, il va être question de personnes comme ça, pour qui l'Afrique, c'est continent, un autre univers que celui que nous connaissons ici, nous occidentaux.
Oui, tout à fait. J'espère vous faire rencontrer plein de gens que je connais ou que je ne connais pas encore, d'ailleurs, qui vont nous apporter un peu toute cette lumière et toute cette richesse de ce continent qui a été pillé. Et je dirais qu'actuellement, pour évoluer un petit peu dans le monde de la soi-disant aide humanitaire, etc., je trouve qu'encore il y a beaucoup trop de gens qui pillent d'une autre façon. Ils vont chercher vraiment une espèce de plaisir, une espèce de jouissance, avoir l'impression d'aider, d'être important, de commander, un peu comme si on refaisait un petit peu la colonisation, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Et en même temps, quand on sait être humble et quand on sait vraiment être soi-même et voir les autres comme eux-mêmes, on reçoit énormément de leçons. Je vais vous dire simplement, vous savez, je lis beaucoup. Je vais vous lire une petite phrase parce que je trouve que Amin Maalouf, j'adore ce type-là. Et il a écrit notamment un passage. L'Afrique, nègre de ses couleurs criardes, ne fut qu'une image dans ma vie, de ces images qu'on croit furtives et oubliées, mais qui remontent aux heures sombres et répandent espérance et tapage. N'est-ce pas le paradoxe de notre culture, qu'en devenant maîtresse de l'espace, elle soit devenue esclave du temps ? En Afrique, on se sent à cet égard beaucoup moins maître et moins esclave, si toutefois on parvient à s'évader de soi-même. Voilà, c'est dans le premier siècle après Béatrice d'Amin Maalouf. Alors tout à l'heure, c'est vrai que Christian disait que il fallait, on aimait ou on n'aimait pas l'Afrique, ou alors on y va dans un esprit affairiste, hein, voilà, pour gagner ou pour. Et moi, bon, j'ai vu des gens qui vivent dans des milieux, enfin, dans des maisons climatisées, sortent tout de blanc vêtus dans un pays où il y a la sécheresse et la latérite, mais enfin, bon, voilà, et entre eux. Et c'est vrai que si on se met à, on vit des moments extraordinaires. Et moi, je sais que dans ma vie, donc, au Burkina Faso, qui est quand même, j'ai dit, ça fait bientôt 23 ans, j'ai vécu des choses terribles, puisque, bon, j'apporte de l'aide dans un secteur des femmes et d'enfants concernant le sida, la grande pauvreté et tout. Mais à la fois, j'ai vécu ça, mais aussi j'ai vécu des leçons de vie par rapport à ces événements qui m'ont toujours émerveillée. Et c'est vrai qu'à un moment, quand on est là avec eux, ben on est là avec eux. Quand on mange avec eux, ben on mange avec eux. Vraiment, c'est la fête. Si on fait une petite fête, si on se retrouve, tu invites quelqu'un au restaurant, il te dit « Ah bon ?» Parce qu'il y aura le pain, parce que souvent dans un restaurant, bon, c'est ce qu'on appelle les petits restaurants dans la rue, là, par terre, et ben, on va acheter la baguette de pain en plus. Et tout ça, c'est un plaisir, c'est une célébration de la vie, et ça j'ai envie de le transmettre. Et dans les personnalités que je compte inviter, j'espère, il y a des gens comme ça qui sont partis de leur village, etc. Et beaucoup ont fait des études, hein. Moi j'ai beaucoup d'amis médecins puisque je travaille dans les milieux médicaux, mais c'est quand on voit leur histoire, leur historique, c'est extraordinaire, et ce qu'ils arrivent aussi à garder de tout ce qui leur a été transmis. Et donc moi j'ai envie de le faire circuler, de le faire connaître et de le transmettre aux gens, cette image là qui est l'image de profonde de la vraie Afrique, et pas celle des clichés qu'on nous balance de temps en temps, parce que non, ça, c'est pas la vraie Afrique. Voilà. Et puis il y a une créativité actuellement. Je vois même par exemple au Burkina, qui est un pays à côté du Bénin, qui ont cette technique de bronze à la cire perdue. Je vois actuellement, j'ai vu il n'y a pas longtemps, ils ont une créativité, des créations que même moi je n'ai pas vues, et ils arrivent à s'adapter sans arrêt. On a des artistes peintres qui se sont mis à mélanger le traditionnel avec le moderne. Il y a des danseurs chorégraphes, je pense à un notamment, j'espère qu'il pourra venir, qui tournent dans le monde entier, qui sont vraiment qui font en même temps de l'aide pour les défavorisés dans leur pays, qui ont une créativité, qui mélangent aussi, qui savent très bien voilà mélanger les deux. Il y a des gens qui écrivent du théâtre. Et le théâtre africain, c'est un théâtre extraordinaire, parce que l'Africain en soi, c'est un comédien, puisque la tradition orale, je veux dire l'oralité chez eux, c'est essentiel. La danse, et puis ils ont vraiment cette aise, ils sont à l'aise dans leur corps, et puis ils n'ont pas honte de prendre la parole, ils n'ont pas honte de dire ce qu'ils ont à dire, ils n'ont pas honte de mettre le ton. Alors après, Il y a des contentions, peut-être qu'on viendra en parler aussi, concernant l'appartenance au groupe. Parce que là, il y a des choses qu'on ne peut pas transgresser. Donc, tout à l'heure, Christian parlait aussi des transgressions initiatiques. Hein. Il y a des gens qui sont initiés qui ne peuvent pas. Ça, c'est autre chose. Et ça fait partie aussi de ce qui est difficile à eux pour vivre. Mais sinon, franchement, il y a vraiment toute cette aisance. Et je vais lire une petite phrase de Léopold Senghor. Encore là, Cédar au milieu. La parole se fait spontanément en rythme dès que l'homme est ému, rendu à lui-même, à son authenticité. Alors voyez un peu. Oui, la parole se fait poème. Mmh. Évidemment, c'est un Africain qui dit ça, parce que je ne sais pas si un Occidental, en tout cas un Français, quand il doit prendre la parole dans certains milieux, ou peut-être en fonction de son éducation, est aussi à l'aise pour prendre la parole. Et là, il nous donne des leçons de vie, des leçons de vitalité, des leçons de résurrection, des leçons de créativité, des leçons de dons. Ils sont doués. Moi, j'ai eu vu dans des milieux très pauvres où on faisait des petites fêtes, des enfants improviser des poèmes, faire des dessins, enfin vraiment des choses spontanées et qui sont vraiment d'une grande richesse, qui s'ancrent vraiment ils sont ancrés dans leur terre, et ça on le ressent quand on est là-bas. On ressent cette terre qui vibre. Quand Christian parle de la nature là-bas, c'est vrai que là, même en ville, comme les villes sont très étendues, il y a quelques arbres. Là où je vais, c'est un peu sec, mais il y a quelques arbres, il y a cette latérite, il y a un petit peu des plantes sauvages, etc. Il y a des animaux, même en ville, et tout ça, on le ressent très, très, très fort. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais qu'on arrive à transmettre.
Alors, Christian Allier, je reviens vers vous. Vous, la découverte de l'Afrique, ça a été d'accord, comme le disait Marie-Claude, Dakar, la ville Dakar, et puis ensuite le contact avec l'arbre. Et puis, plus récemment, peut-être, vous vous êtes intéressé de près au phénomène de la déforestation quand même, qui est peut-être moins poétique que votre premier contact avec ce fameux arbre qui vous a ressourcé pour repartir vous faire soigner.
Alors ça, la déforestation, c'est pareil, c'est comme la nature, j'ai baigné dedans assez vite. La première entreprise dans laquelle je suis resté quelques mois, je suis parti assez vite, c'était la grosse cavalerie, des entreprises qui font 250-300 000 mètres cubes par an, grumes, sans compter les boissiers, enfin c'est des trucs énormes. Et après j'ai travaillé aussi pour des entreprises de moindre importance, jusqu'à travailler avec ou pour des gens, par exemple un plombier ou un pâtissier qui voulait mettre de l'argent dans l'exploitation forestière, il y connaissait rien, donc on travaillait ensemble. Lui avait l'argent que moi je n'avais pas, que j'ai toujours pas d'ailleurs. J'ai pas vraiment fait fortune aux ex-colonies. Et bon, passons. La déforestation, j'ai passé mon temps, j'ai fait au moins entre une fois et demie et deux fois le tour de la terre à pied, à suivre, à pister mes ouvriers pour être bien certain qu'ils suivent mes instructions, qu'ils évitent de... On peut exploiter la forêt.
Respectant l'arbre ?
En respectant, oui, l'arbre. Exploitation, restauration, c'est pas du tout incompatible. Maintenant, ça prend des proportions absolument terribles.
Maintenant, vous voulez dire ces dernières années ?
Actuellement, c'est pathétique. Et puis, le plus grave, c'est que le dérèglement climatique, c'est pas une petite plaisanterie. Là, c'est pas seulement les cerisiers qui sont en fleurs trois semaines, un mois avant. Non. Ça dérègle absolument tout, les courants marins, l'atmosphère. L'arbre émet des tas de molécules dont on a identifié les ions négatifs, d'accord, celles qui transforment l'humidité ambiante en gouttes d'eau, etc. Mais là-haut, dans l'atmosphère, le fait de casser ce rythme-là d'échange naturel par le biais des arbres. Ça fait 350 millions d'années qu'ils sont là. Des changements climatiques, ils en ont connu une tripotée. Et ils se réadaptent systématiquement. On a tout à apprendre des arbres. Bon, et là, on dérègle absolument tout. Et tout, il y en a pour tout le monde. C'est pas seulement la bande équatoriale. Ni l'Afrique, ni les pays pauvres, parce que c'est eux qui morflent depuis longtemps. Depuis que les humains commercent. C'est l'or du Soudan, l'or des pharaons, il vient de Nubie, c'est-à-dire le Soudan, ça c'était il y a 4 000 à 5 000 ans.
Mais est-ce que ce dérèglement climatique a demandé une nouvelle adaptation des hommes aussi à ce travail, notamment de déforestation ?
Il faudrait, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est dramatique. Bon, non, mais c'est terrible. Le malheur de ces forêts, c'est qu'elles intéressent tout le monde. L'Europe est le plus gros consommateur de bois tropicaux. Bon, après la Chine, très probablement, seulement les Chinois et les Asiatiques en général, pour contrôler ce qu'ils embarquent chez eux, c'est très compliqué. Il faut savoir que 80% de ces bois-là, c'est d'origine illégale. Et ça, j'ai vu des Malaisiens enfiler des bouts de bois dans des containers. Bon, j'ai vu de loin. Parce que sinon, on se serait battu, je ne serais peut-être pas là. Non, mais pour vous dire, là, ça prend. Il y a un système de corruption. Toutes les couches de la société, je parle du Gabon, parce que j'ai encore des infos, et ça, c'est dans toute l'Afrique, toutes les couches de la société sont touchées par un système de corruption de type mafieux. Il n'y a rien à faire, il faut dire les choses.
Et ça touche. Des Gabonais,
bien sûr,
sont impliqués, ouais.
les gens dont je parle, mettons les Asiatiques, on va dire, c'est plus simple, font le tour des villages repère les arbres rares. Bon, je peux donner des noms d'arbres, mais le Kevasingo, le Dibétou, le Doucier, des arbres rares qui poussent autour des villages. Et ça les, et même s'ils sont à 3-4 kilomètres, à chaque fois, ils amènent leur matériel, ils viennent la nuit. Une pelle de bulle, ça fait 2,50 m. Ils font 4 ou 5 kilomètres aller, 4 ou 5 kilomètres retour. Forcément, ils arrachent les arbres qui poussent au milieu. Pas les gros, évidemment, ils n'ont pas le temps. Et sinon, ils les embarquent. On tasse les sols. Le sol, c'est comme en France, on bousille les sols partout sur la planète. C'est de la folie furieuse, ça aussi. Bon, là, je reviens à mon bulle, parce que sinon... On tasse le sol, il faut... 80, 100 ans dans ces zones tropicales où le sol est très pauvre, ce sont les arbres qui refont la couche d'humus. Dessous, c'est de l'argile, du grès, du schiste. Et voilà. Et ça, c'est partout. Et plus longtemps on laisse ces gens-là, les trafiquants, plus ils s'installent, ils renforcent leur système, ils peaufinent leur technique, leur repérage, ils vont transformer.
Alors, quel type de militance peut agir envers ça?
Là, il faut former, informer, c'est ce à quoi je m'emploie. Et puis, dès que je peux donner une conférence avec l'aide de personnages importants, genre Francis Allais, je viens, je participe, je parle aux gens, j'ai vu ça. Ça se passe à 6000 kilomètres, d'accord, mais je l'ai vu, je suis là pour parler.
Une démarche citoyenne, dépasse nos possibilités de citoyens
si
français.
Si, les citoyens peuvent très bien agir, puisque... Il y a quand même, il y a eu le FSC, ça a mal fini. Les RDD, plus ou pas plus, enfin les contributions carbone et compagnie, ça finit, l'argent finit par être détourné, ça part quelque part aux Bahamas. Ça change rien, et pour la forêt, et pour les populations.
Et pour les trafiquants.
Si.
Ça change un peu, quand même.
Ah ben oui, le pognon, c'est eux qui le prennent, et ils le planquent après, et personne, voilà.
Ça change rien pour eux, ils gagnent tout aussi bien leur vie, malgré ces contraintes et ces normes.
Mais ça, ils s'en foutent complètement.
Voilà, ils s'en foutent.
Il faut des contrôles, et ça, on a les moyens de le faire ici. Exiger les documents douaniers sur ceux qui partent du Gabon ou du Congo ou du Ghana ou peu importe, là où il y a, ou du Libéria, là où il y a du bois de toute façon. On revient ici avec d'autres papiers.
Est-ce que les Gabonais eux-mêmes ont cette sensibilité-là?
Bonne question. C'est difficile, madame. C'est le problème que je disais il n'y a pas longtemps. Plus on laisse les trafiquants s'installer, plus les mauvaises habitudes, entre guillemets, s'inscrivent, et plus ça va être dur de changer ça. Parce que Makaya, c'est Monsieur Dupont, hein, ou Martin du Gabon, par exemple, il a plus de boulot. Sa femme est malade. Ses gosses ne peuvent pas aller à l'école. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un bonhomme qui vient et dit, dis donc, tu as un arbre là-bas qui te donne 500 000 CFA. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais pour lui, 500 000 CFA sur le moment, ça va permettre de soigner, etc. Et puis de manger, parce que à force de bousiller l'environnement, traditionnellement, Makaya, il retournait au village, il s'en faisait pas trop. Il allait poser ses pièges, il allait à la pêche. Il y avait des plantations de manioc. Et maintenant, on est en train de tuer ces gens-là, en les privant de leur environnement. Je veux dire, et c'est valable pour tous les humains de la planète, hein. Et les humains, les tigres et les éléphants, pour tout ce qui est vivant, on est fait de notre environnement. On bousille l'environnement, on s'autodétruit.
Et la boucle bouclée?
Alors quand
est-ce qu'on s'arrête?
Pour ça, il faut parler, c'est comme sur place, il faut éduquer les populations, etc., etc. Tous les dictateurs le savent.
Et leur donner de l'argent pour...
leur premier boulot, c'est de bourrer les crânes de bêtises, et surtout, ne réfléchissez pas.
Marie-Claude.
Oui, simplement, je voulais faire une petite intervention en disant, en vous signalant donc un livre qui est absolument extraordinaire par Albert Londres, bon, qui est quand même connu, hein, comme un des plus grands reporters de tous les temps. Il a écrit Terre d'ébène en 1929, et je vous assure qu'après 4 mois passés dans l'Afrique colonisée de l'époque, il a fait scandale, hein, il a eu des procès, etc. Et simplement, un petit passage justement pour Christian, la description de la condition des des coupeurs de bois est peut-être un des passages du livre les plus terrifiants. Absolument. Albert Londres, il y raconte avec justesse le massacre des hommes autant que celui des arbres. Et il dit « Au siècle de l'automobile, un continent se dépeuple parce qu'il en coûte moins cher de se servir d'hommes que de machines. Ce n'est plus de l'économie, c'est de la stupidité. »
Absolument.
Et on se rend compte que la stupidité a continué. Moi, simplement, je vais ajouter une petite note optimiste. Je trouve quand même qu'il y a des gens de plus en plus,
oui,
dont notamment Christian,
oui, oui,
et puis des gens qui dénoncent, hein, ouais, beaucoup, beaucoup. Et je trouve qu'il y a des mouvements en faveur de ça. Mais pour dire que quand même, ça a commencé dans ces années-là. Et puis, si vous, je vous encourage
en 29,
allez lire Terre d'Ébène. Il a fait un scandale, oui, il a écrit ce qu'il avait à écrire. Et d'ailleurs, il disait la même chose pour la construction du chemin de fer, en disant que les contremaîtres qui étaient là se saoulaient la gueule tout le temps parce qu'ils voyaient mourir des hommes. Ils n'avaient pas de moyens. Ils voyaient mourir leurs hommes, là. Et tous les jours, ils en perdaient, je ne sais pas combien, que c'était, oui, insupportable. Oui. Et les coupeurs de bois, c'est la même chose. Donc voilà, et dire qu'on espère, on est optimiste en tout cas.
Oui, on reste optimiste, et ça je l'ai remarqué au cours de conférences et compagnie, les générations montantes sont très conscientes de tout ce qui se passe, de plus en plus, ça devient pour la plupart très évident que nous sommes faits de nature, et que sans cette nature on va dégager.
Comme plus vite que prévu.
Oui, mais on n'est jamais qu'une espèce parmi tant d'autres.
Bien, Christian Allier, vous reviendrez alors continuer votre militance sur FM+, invité par peut-être Marie-Claude Kezaksia.
On verra ça
à suivre alors. Encore une fois, merci à tous les deux et à nous revoir.
Au revoir.
À bientôt.
À bientôt.
Merci.